9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bonjour à tous les bougnoules, Maître Serran vous salue. Oui, les bougnoules, car aux yeux de certaines personnes dans ce pays, tu ne seras jamais qu'un sale maghrébin ou qu'un sale noir. Tu auras beau faire tous les efforts du monde pour tenter de plaire, tu resteras à mes yeux un moins que rien. Pour qui te prends-tu au motif que tu es né en France? Tu crois avoir les mêmes droits que moi, pauvre français de papier que tu es. La maîtrise de la langue française n'effacera jamais ta couleur de peau et tes cheveux crépus. Je ne te supporte plus. Alors ma haine peut parfois se traduire par la volonté de te donner la mort. Nous sommes le 27 juin 2023, il est encore tôt, je sors de chez ma mère que j'embrasse à tout à l'heure, maman. Vous savez peut-être, je suis son seul enfant, je suis, et vous le comprendrez aisément, tout pour elle. J'ai une relation très fusionnelle également avec ma grand-mère. Je monte dans ma belle voiture, une Mercedes jaune. Ce n'est pas ma voiture, je n'ai pas encore le permis. Je sais que ce n'est pas bien, mais j'ai 17 ans. Et quand on a 17 ans, on est parfois insouciant. Je ne suis pas seul dans cette voiture. Deux amis m'accompagnent. Je roule, il est vrai, un peu vite, ce mardi 27 juin. Et à 7h55, mon véhicule est remarqué par la police, car je suis sur une voie de bus. Merde, je vois deux motards qui me suivent. Je pourrais m'arrêter, mais je n'ai pas le permis. Je ne veux pas être interpellé. Stupide peut-être. Mais j'ai 17 ans. Ils tentent une première fois de m'intercepter en activant leur gyrophare. C'est un peu la panique dans la voiture. Je sais pas trop quoi faire. Au feu tricolore, les motards atteignent la vitre. Si je me fais arrêter, j'aurai trop d'emmerdes. Je redémarre. J'aurais pu à ce moment-là ne pas repartir. Mais j'ai 17 ans. En raison d'un embouteillage, je suis coincé. Les policiers mettent pied à terre. La suite sera racontée par mon camarade qui était le troisième passager du véhicule qui a pris la fuite, car je ne suis plus parmi vous. Pour vous donner ma version, ah oui, je vous ai pas donné mon nom, je m'appelle Naël. Les policiers sont arrivés en courant, ils nous ont dit de baisser la vitre, Naël a baissé la vitre, le motard était près de la fenêtre et a dit « éteins le moteur ». Et puis il a mis un coup de crosse à Naël gratuitement. Le deuxième motard s'est penché par la fenêtre, lui a mis un coup de crosse lui aussi. Naël était alors un peu sonné, paniqué. Il ne savait pas quoi faire, il avait la tête qui tournait, il ne pouvait rien faire, même pas parler. Il était vraiment traumatisé. Les policiers ont dit à Naël « éteins le moteur ou je te shoot et puis je vais te mettre une balle dans la tête ». Apeuré, et on le serait pour moins que ça, Naël, qui a 17 ans, une réaction instinctive. Comme il était un peu sonné, son pied s'est enlevé de la pédale de frein. Comme la voiture, c'est une automatique, elle a avancé toute seule. Le policier, situé près de la fenêtre, a dit à son collègue « shoot-le ». C'est là que le motard qui était à l'avant a tiré. Naël n'est plus. Son décès est constaté à 9h15. Alors, merci les téléphones portables et les réseaux sociaux, car sans cette vidéo, les policiers s'étaient déjà mis d'accord sur une version, une pseudo-mise en danger de leur vie qui aurait justifié qu'on abatte ce gamin. Combien de nos enfants ont été tués par des policiers et qui, faute de vidéo, ont pu raconter la version qu'ils souhaitaient? Résultat, des policiers pas poursuivis ou des sanctions ridicules. Et nos enfants l'ont parfaitement compris. Il n'est plus question pour eux d'être traités comme nos parents ont été traités par cette police dite républicaine. Alors, y a-t-il du racisme dans la police? Et c'est pas moi qui le dis, c'est la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui a déclaré « C'est le moment pour le pays de s'attaquer sérieusement au profond problème de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. » Et quand je lis le communiqué des syndicats Alliance et UNSA Police qui déclarent « Face à ces hordes sauvages, demander le calme ne suffit plus, il faut l'imposer. » Je ne peux que partager l'avis de cette porte-parole. Alors, oui, j'oubliais, le policier tueur a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé pardon à la famille de cet enfant. L'indécence n'a pas de limite. Allez, après avoir longuement parlé, je vous invite à contacter le 01 53 48 3000 pour poser vos questions, émissions sous le contrôle de celui qui prône le calme et la tolérance, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Maître Serran sur Beurre FM. Alors, couvre-feu ou pas couvre-feu, on attend des nouvelles dans le courant de cette matinée. En France, qui peut décréter le couvre-feu, Maître Serran, puisqu'on l'a vu, certaines communes du nord de la France ont décidé de mettre en place un couvre-feu sur tout ou une partie de leur territoire.
On a des arrêtés municipaux là qu'on fleurit là, depuis hier pour effectivement imposer un couvre-feu. Alors il faut savoir, couvre-feu, encore une fois, ça peut se faire au niveau local et c'est pour interdire à certaines personnes de sortir durant un laps de temps déterminé. Il faut que ce soit limité au niveau de la zone géographique et dans le temps. Alors on a vu, hein, c'était entre 22h, 23h et 6h ou 5h du matin selon les communes. Et là, chaque commune décide de faire ce qu'elle a envie de faire, ou alors le préfet peut également prendre un arrêté. D'ailleurs, il y a un confrère, alors je ne sais plus trop dans quelle ville, à Clamart. Ouais, c'est à Clamart où on a un confrère qui a engager une procédure de référé suspension, c'est une procédure d'urgence pour demander donc la suspension de l'arrêté de la mairie de Clamart, en considérant que cet arrêté qui impose le couvre-feu était disproportionné, c'est-à-dire que la mesure était beaucoup trop forte par rapport aux événements. Donc on va attendre la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour voir un peu si les magistrats vont dans son sens ou pas. Donc là, on parle de petits couvre-feux comme ça qui...
locaux, quoi.
Voilà, qui fleurissent un peu à droite, à gauche. Donc, il se dit en tout cas que le gouvernement est particulièrement préoccupé et que dans le cadre de ce qu'on appelle l'état d'urgence, qui imposerait dans ce cas-là un couvre-feu beaucoup plus large, bien que, encore une fois, ça peut être ciblé en fonction des régions, mais il se dit que le gouvernement serait en train de penser fortement à ce type de couvre-feu. Donc c'est un décret qui est ou qui serait pris au Conseil des ministres. Donc c'est encadré juridiquement. Ce couvre-feu ne peut pas dépasser un délai de 12 jours. Et si on veut aller au-delà de 12 jours, c'est un vote qui devra être sollicité au Parlement. Donc c'est quand même très encadré.
C'est ce qu'on a eu pendant le Covid.
C'est ce qu'on a eu pendant le Covid. C'est ce qu'on a eu durant la guerre d'Algérie. C'est à ce moment-là où on avait connu cette procédure d'état d'urgence. On l'a eu ensuite pendant le Covid. Alors il faut savoir que pour les couvre-feux, dans l'hypothèse où ce serait pas respecté, en tout cas durant le Covid, on a eu des amendes de 130 € qui n'arrêtaient pas de pleuvoir, et je sais de quoi je parle, puisque c'est très difficile d'imposer aux enfants, quand ils ont un certain âge, de leur demander de rester au domicile et de ne pas sortir. Donc beaucoup de parents, j'imagine, ont eu beaucoup d'amendes de 130 € récoltées par leurs enfants. Et il faut savoir que c'est quand même ce qu'on appelle une mesure grave, puisque c'est une restriction de liberté qui n'est pas anodine. D'abord, simplement, vous interdire de sortir de votre domicile de telle à telle heure. Il faut savoir que les pouvoirs des policiers sont beaucoup plus importants. Donc, une possibilité de venir perquisitionner avec des règles, entre guillemets, beaucoup plus souples pour les autorités policières. Donc c'est pas anodin comme mesure. Alors d'aucuns se posent la question de savoir si demain ou après-demain un couvre-feu était voté, décidé, imposé. Qu'est-ce que ça donnerait? Donc on voit bien que on est dans l'ambiance de l'état d'urgence. C'est-à-dire que juridiquement on n'y est pas. Mais vu les moyens déployés par le gouvernement, vu le fait qu'ils aient fait appel à toutes les unités de police spécialisées, on voit bien qu'on est dans cette ambiance de couvre-feu, et on voit bien que ça fait peur, j'allais dire, aux citoyens lambda, mais ça n'impressionne pas les gamins qui sont dans la rue. Et quand je dis gamins, c'est y a rien de péjoratif, c'est un constat, puisque on a vu des enfants, des jeunes enfants se faire interpeller 9, 10, 11, 12 ans. D'aucuns ont dit que, et notamment le ministre de la Justice, que ça relevait de la responsabilité des parents, et il a rappelé également que cet exercice de l'autorité parentale qui ne serait pas imposée par les parents pouvait donner lieu à des sanctions. Alors une sanction pénale, hein, on a 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Alors c'est un peu facile, évidemment.
Mais c'est quoi le délit?
Bah, le délit, c'est justement de pas exercer votre autorité parentale sur votre enfant. Si vous avez un enfant qui est qui est mineur, vous êtes responsable de votre gamin. Alors évidemment, dans le meilleur des mondes, tout ça semble simple. C'est-à-dire que si le gamin n'est pas majeur, je dois faire en sorte de entre guillemets de m'occuper de lui à plein temps, de lui imposer telle ou telle règle. Alors oui, dans le meilleur des mondes. Sauf que quand on a des gamins qui ont 12, 13, 14, 15 ans qui sont dehors, c'est évidemment jamais avec l'aval des parents. C'est qu'il y a un problème d'autorité, et je connais aucun parent, aucune famille volontairement ou de manière légère dit bah écoute, fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si je n'arrive pas, moi, adulte, parent, à m'imposer, c'est qu'il y a un problème plus profond au sein de la famille elle-même. Alors, est-ce qu'il faut sanctionner pénalement, encore une fois, c'est-à-dire que c'est des sanctions, c'est une sanction pénale avec une sanction financière lourde pour, en règle générale, des familles qui ont déjà des difficultés. Est-ce qu'il faut sanctionner civilement également ces familles, puisque il y a cette menace aussi de couper les fameuses allocations familiales. Je le redis, moi je connais pas de familles qui volontairement disent à leurs enfants, écoute, va foutre entre guillemets le bordel, ou je te laisse sortir et fais ce que tu veux. C'est qu'il y a déjà une difficulté au sein de cette famille, donc il faut pas taper sur la tête de ces gens-là. Donc c'est vrai que ce discours du ministre de la justice, alors qui a bien changé, hein. Je rappelle quand même que Dupond-Moretti était à l'origine un confrère et un avocat. Je l'ai connu un peu plus virulent à l'égard des politiques et du gouvernement, mais comme quoi, en fonction du poste que vous avez un discours totalement différent. Mais je suis assez surpris de ce coup de matraque entre guillemets à l'égard des familles. On sait tous que les parents de ces gamins, encore une fois, et si ces gamins sont dehors, c'est parce qu'ils ont, ils connaissent déjà des difficultés. Maintenant, il faut pas s'étonner de ce qui se passe. Vous savez, moi j'ai moi-même des enfants. Je peux vous assurer qu'il est pas simple, entre guillemets, de les tenir. Et en particulier, voilà, moi, j'ai un gamin de 17 ans. Quand vous avez un gamin de 17 ans et vous apprenez qu'un policier a utilisé son arme et a ciblé un autre gamin de 17 ans. Enfin voilà, on se met quand même, si tant est que ce soit possible, à la place de cette pauvre mère. Mais et évidemment que c'est révoltant. C'est-à-dire que moi je sais que idéalement j'aurais dû tenir un discours apaisé à l'égard de mes enfants en disant, écoutez, oui, d'accord, ça peut arriver, mais il y a la justice qui. Mais au bout d'un moment, c'est insupportable. C'est insupportable parce que je suis... J'ai été également, on fait référence souvent aux événements de 2005 où à l'époque on travaillait, j'allais presque dire quasiment 24 heures sur 24, puisqu'on a eu des centaines de gamins qui étaient déférés devant les tribunaux. La plupart d'ailleurs relaxés, et là tous les jours on nous dit, écoutez, il y a 900 arrestations, il y en a 1000, on verra bien combien de condamnations effectives.
994, voilà. Hier soir.
Mais on verra bien, ouais, combien de condamnations effectives, puisque on sait que c'est un peu à la pêche au thon, hein, c'est-à-dire qu'on embarque tout le monde, sauf que devant un tribunal, et les magistrats jouent le jeu, devant un tribunal, il faut déterminer une responsabilité individuelle. Voilà, je peux pas mettre la main sur 15 personnes et dire les 15 personnes sont responsables, je dois déterminer pour chacune des personnes leur responsabilité. Compte tenu de l'importance des personnes interpellées, je peux vous assurer que la plupart du temps, ces personnes seront mises dehors, tout simplement parce que les procès-verbaux sont jamais rédigés de manière carrée. Donc, moi, ce qui me surprend, c'est justement la surprise du gouvernement. Au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol, je le redis, et il faut aussi ouvrir les yeux. Quand on a un organisme au sein de l'ONU qui dit qu'il y a peut-être un problème de racisme au sein de la police, on a le droit de s'interroger. La réponse qui a été donnée par certains politiques, c'est de dire non mais attendez, ce comité est constitué essentiellement de pays qui eux-mêmes ne respectent pas les droits. Ça me semble un peu simple comme réponse, non. Il y a un racisme, c'est insidieux, évidemment, quand on croise un noir, un arabe dans la rue, on ne vient pas lui dire en face, t'es un sale noir, t'es un sale arabe, mais c'est distillé. Et est-ce que la police, encore une fois, même s'il ne faut pas faire de généralité, est raciste? Enfin voilà, je suis pas né avocat.
L'institution, vous voulez dire?
Ben oui. Il m'est arrivé, étant plus jeune, d'avoir fait l'objet de contrôle. Et effectivement, on me contrôlait pas parce que j'avais commis quoi que ce soit, mais parce qu'on se balade toujours avec sa face d'arabe. Et c'est comme ça. Donc oui, il y a un vrai problème.
Maître Serran, alors vous avez des questions juridiques à poser. Le standard de Beurre FM est à votre disposition. Vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, c'est tout droit avec Maître Serran. Ah oui, on va vous donner un casque, oui. Maître Serran. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct à Maître Serran au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000, posez vos questions ou réagir. J'aimerais qu'on aborde la question des assurances, Maître Serran. Est-ce que les assurances vont prendre en charge les dégâts, parce qu'il y a quand même énormément de dégâts, qui sont dus à ces émeutes?
C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que on n'est pas dans le cadre d'une catastrophe naturelle où vous avez un décret qui dit que il y a justement cette notion juridique de catastrophe naturelle et c'est entre guillemets le gouvernement qui va prendre tout ça en charge. C'est-à-dire que là, c'est votre propre assurance. Alors, les assurances des commerces, on le sait, on entendait hier d'ailleurs beaucoup de personnes en parler en disant mais c'est une assurance qui coûte une fortune. C'est-à-dire que rien que la franchise, parfois, coûte beaucoup plus cher que...
Alors, ce qu'on appelle la franchise pour tout le monde...
C'est le montant, j'allais dire, minimum que vous devez verser à votre compagnie d'assurance pour que les frais, les dégâts soient pris en charge. C'est-à-dire que, quel que soit le montant des dégâts, vous avez un montant minimum à régler. Et parfois, cette franchise est extrêmement élevée. Et certains disaient que la franchise était même supérieure aux éventuels chiffrements des dégâts. Donc on peut comprendre que ces personnes-là vont ça va être de leur poche. Concernant les véhicules, puisque on a vu qu'il y avait beaucoup de
véhicules qui ont été brûlés,
voilà, ouais. Qui ont été brûlés, alors tout dépend de votre couverture. Si vous êtes assuré tout risque, bon, il n'y a pas de difficulté, si ce n'est l'emmerdement dans un premier temps de ne pas avoir de voiture. Mais vous serez indemnisé. Maintenant, si vous avez une assurance au tiers, mais le minimum, c'est-à-dire qu'au tiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les tiers qui sont protégés. Donc, si je renverse quelqu'un, si je suis avec des passagers, j'ai un accident et que mes passagers sont blessés, ce sont des tiers par rapport à moi. Donc, ils seront couverts. Mais moi, conducteur, je suis pas couvert. Et si mon véhicule n'a pas été assuré spécifiquement pour le vol ou l'incendie, et ben si vous sortez de chez vous et votre véhicule a été incendié, vous serez pas indemnisé. Et d'ailleurs, on le voit bien que tant les policiers que les politiques jouent là-dessus, c'est en disant mais attendez, vous êtes en train de vous en prendre à vos voisins, aux plus précaires. C'est une réalité.
À votre quartier,
c'est ce qu'ils disent. Mais oui, c'est une réalité. Mais et je crois d'ailleurs que les jeunes l'ont compris, puisque il y a une sorte de, en tout cas, il y a eu une montée vers Paris. C'est-à-dire qu'on va essayer de taper les quartiers un peu plus riches et mieux lotis. On va peut-être éviter de taper notre propre secteur et propre quartier. Donc c'est vrai que. Mais je crois que c'est comme ça dans ce type de mouvement. Il y a toujours des conséquences qui vont être subies par les plus fragiles d'entre nous. Celui qui n'est pas assuré, en tout cas qui n'est pas assuré contre l'incendie, qui n'est pas assuré contre le vol, contre les dégradations. Si vous êtes, encore une fois, le tiers, mais minimum, minimorum, c'est pour votre poche.
Mais si c'est dû à des émeutes, justement, est-ce qu'il y a des clauses particulières? Parce que c'est ça le...
Ah non, il n'y a pas de, il y a pas de clause particulière, et vous imaginez bien que dans l'hypothèse même, encore une fois, parce que c'est le propre des assurances, c'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire que dans l'hypothèse même, imaginons qu'il y ait ce genre de clause. Vous verrez qu'il y aura une vraie discussion juridique, c'est-à-dire, encore une fois, est-ce que le gouvernement a appelé une certaine protection, c'est-à-dire que si je dis attention, il va se passer ça, ben faut faire en sorte de cacher ou de protéger son véhicule. Donc les compagnies d'assurance vont jouer là-dessus, puisque on le voit bien, ça va coûter très cher. À nous tous, à la société, mais ça va coûter cher aussi aux compagnies d'assurance.
Donc, mais enfin, c'est quand même le principe de l'assurance, c'est d'être assuré.
Oui, idéalement. Oui, ouais. Mais bien sûr.
Contre l'imprévisible.
Mais on est entièrement d'accord. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas assuré, d'ailleurs c'est une sanction, puisqu'il faut, si vous avez un véhicule, il faut être assuré, mais on peut l'entendre et on peut le comprendre. Et puis quand vous êtes assuré, très souvent, le combat que vous avez, c'est avec votre propre compagnie d'assurance. Moi, je le vois bien en qualité d'avocat, c'est-à-dire que vous avez des situations où on se dit, mais où est le problème? C'est-à-dire que je suis assuré, il y a un dégât qui a été commis, le contrat d'assurance dit que monsieur ou madame doit être indemnisé, et puis on se rend compte que la compagnie d'assurance va chercher la petite bête pour voir si effectivement vous ne seriez pas éventuellement fautif dans cette histoire, est-ce que vous avez pris toutes les précautions qu'il faut. Donc malheureusement, il suffit pas juste de présenter son contrat d'assurance et dire bah voilà, le dégât c'est ça et puis merci de m'indemniser. Les compagnies d'assurance ont des juristes et des avocats, et très souvent ils jouent pas le jeu. Mais ça, on le voit quotidiennement. Donc je dois m'assurer, c'est obligatoire quand j'ai un véhicule. Il se trouve que quand je dois faire appel à ma compagnie d'assurance, il y a d'abord des dizaines d'échanges de courriers, et puis parfois on est obligé de se retrouver devant un tribunal. Mais ce qui est important, c'est que à partir du moment où vous êtes assuré, vous avez un contrat, faut vraiment jamais lâcher, hein. C'est-à-dire que le premier réflexe,
dans ces cas-là, vous prenez un avocat.
Au bout d'un moment, oui. C'est terrible et c'est malheureux. Parce que normalement, votre compagnie d'assurance doit vous accompagner quand il y a un sinistre. Vous voyez, on voit toutes les publicités où le type intervient en courant en disant « Mais j'ai aidé cette famille, la famille est souriante. » Oui, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle la publicité. Sauf que dans la vie de tous les jours, au bout d'un moment, votre ennemi, avec des guillemets, c'est la compagnie d'assurance. Et donc, vous êtes obligé d'aller voir un avocat qui, dans un premier temps, va envoyer un courrier pour expliquer la situation et faire comprendre qu'il y a rien qui s'oppose à ce que le client doit être indemnisé. Et puis, quand il n'y a pas d'accord entre les uns et les autres, oui, on se retrouve devant un tribunal. Mais encore une fois, faut pas lâcher l'affaire. C'est ça qui est important. Et souvent, ces grands groupes jouent là-dessus. C'est-à-dire, je vais faire en sorte de vous dégoûter, de faire traîner le dossier.
Il y a de l'écrémage, en fait.
Mais c'est
part du principe
ça.
Qu'il y a un certain pourcentage d'assurés qui sont procéduriers.
Mais bien sûr.
Et d'autres qui vont lâcher l'affaire rapidement.
Ouais, donc ils s'y retrouvent tout le temps. C'est-à-dire que même sur 10 dossiers, si je dois en indemniser normalement, on va dire 9, et puis il y en a peut-être que 3 ou 4 qui vont aller jusqu'au bout, c'est toujours rentable pour la compagnie d'assurance. Donc vraiment, il faut pas lâcher, encore une fois. Je le redis, je parle des personnes qui ont un contrat d'assurance, donc là, il n'y a pas de difficulté. Mais faites attention aux discours tenus par les compagnies d'assurance. Vous savez, moi, je le vois même à titre privé. Là, j'ai eu un litige avec une compagnie d'assurance pour une histoire de vitres. Bah, c'est un truc d'une banalité suprême. On se dit, normalement, il n'y a pas de difficulté. Non, ils cherchent toujours à vous emmerder. Et puis, quand on sort, entre guillemets, l'artillerie lourde, au bout d'un moment, ils cèdent, parce qu'ils savent très bien que si vous êtes devant un tribunal, vous allez obtenir un gain de cause, et deux, vous pourrez les faire condamner à des dommages et intérêts ou pour procédure abusive.
Alors, il y a aussi les organisateurs d'événements, hein, on l'a vu, beaucoup d'événements ont été annulés, des événements qui coûtent cher.
Ouais, des événements qui coûtent cher et qui coûtent très cher. Et donc, c'est vrai que Là encore, les compagnies d'assurance sont obligées d'indemniser, de prendre ça en considération.
Il y a une garantie pour ça, en fait.
Il y a une garantie annulation.
Ouais,
celui qui organise un tel spectacle et qui, pour une raison X ou Y, se dit je vais pas prendre ce type de garantie, ça va être pour sa poche. Donc oui, en règle générale, ils sont bien organisés, mais effectivement, c'est au Stade de France là. Il y a un concert Mylène Farmer là, je crois.
Donc deux soirs.
Bon, évidemment, derrière, c'est un vrai préjudice financier. Et ce sont les compagnies d'assurance, sous réserve, mais j'imagine qu'il n'y a pas de doute là-dessus, sous réserve d'être assurés, donc qui vont évidemment étudier tout ça et mettre la main à la poche, parce que c'est un événement qui est pas dû à la volonté de l'intéressé. Je veux dire, c'est pas le producteur tout seul ou l'artiste qui dit bah tiens là j'ai pas envie. Je veux dire, c'est pas un caprice à ce niveau-là. C'est un événement extérieur. C'est un événement qui pouvait pas être au moment en tout cas où ces concerts ont été organisés ou les dates fixées. C'est un événement qu'on pouvait pas prévoir, ces histoires d'aucun parle d'insurrection. Donc voilà, c'est un événement extérieur et si mon contrat d'assurance a été correctement discuté, négocié, il faudra bien indemniser ces personnes-là. Donc on est sur probablement sur des millions d'euros.
Et ceux qui devaient assister au spectacle, parce qu'on parle des organisateurs, mais il y a tous ceux qui ont posé des vacances, qui sont allés.
Alors c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'en vérité, je peux vous rembourser votre billet.
Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que ça a engendré comme
vous avez frais. Raison. Ouais. Vous avez raison, puisque on entendait hier des pauvres personnes. Alors d'abord qui n'y croyaient pas quand on leur disait écoutez c'est annulé, mais qui disaient mais moi je me suis organisé par rapport à ça. J'ai pris des vacances que pour ça. Donc c'est vrai que il y a un préjudice quand
ça
même.
Ça se chiffre pas vraiment de la même façon.
Non, ça se chiffre pas de la même façon, puisqu'encore une fois là c'est très contractuel. J'achète un billet, bon, s'il y a un spectacle et puis il me plaît ou il me plaît pas, d'ailleurs, peu importe, tant pis, c'est comme ça. Mais si c'est annulé, mon obligation à moi, c'est de vous rembourser. Mais j'ai pas à prendre en considération le fait que vous ayez pris des vacances particulières parce que vous venez éventuellement de loin. D'aucuns disaient que ce sont des billets qui ont été achetés X mois à l'avance. Alors oui, il y a une vraie déception, mais c'est une déception qui sera pas indemnisée ou qui n'est pas indemnisable.
Ouais.
Donc c'est assez frustrant. Encore une fois, les seuls qui pourraient être indemnisés, c'est la prod.
C'est les organisateurs, en fait.
Mais bien sûr.
Ouais.
Mais est-ce qu'on peut comprendre ? Vous imaginez bien que ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que pour chaque personne qui a acheté un billet, il faudrait, entre guillemets, qu'elle détermine la nature de son préjudice. Enfin, on voit bien que c'est juridiquement impossible à déterminer et à organiser. Ce serait pas possible que chacun vienne raconter entre guillemets sa vie pour dire attendez, j'ai sacrifié ça et donc je suis venu et puis ça se fait pas, donc j'ai un préjudice. On se doute qu'il y a un préjudice, mais ça se traduira par le remboursement du billet et pas plus.
Vos questions juridiques à Maître Serran, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et on va accueillir Amine, qui est avec nous au standard, Maître Serran.
Juste avant d'accueillir Amine, j'ai promis d'évoquer, j'ai une auditrice qui m'a appelé sur mon portable.
Hors antenne, oui.
Voilà, juste lorsque j'ai évoqué les menaces de sanctions du ministre de la Justice à l'égard des parents qui ne surveilleraient pas suffisamment leurs enfants, et qui me dit très justement que pour peu qu'un enfant aille dire à sa maîtresse, à son professeur, que papa, maman a eu la mauvaise idée de me mettre une fessée parce que j'ai fait une bêtise, ce sont les parents qui sont emmerdés. C'est-à-dire qu'on peut pas effectivement dire tout et n'importe quoi.
C'est le 119 qui est appelé.
Ben voilà, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que comment vous voulez demander à un gamin de 12, 15 ans, peu importe, de dire tu restes à la maison et tu bouges pas. Au bout d'un moment, vous faites comment ? Est-ce que vous allez le ceinturer ? Vous allez le... l'attacher. Vous imaginez bien que on peut raisonner par l'absurde que si vous faites un truc pareil, oui, le lendemain c'est la police qui débarque chez vous, mais c'est vous qui serez emmerdé.
C'est paradoxal.
Donc, voilà, donc on peut pas demander tout et n'importe quoi aux familles.
Même si la maltraitance
mais bien sûr.
Existe, hein,
bien
c'est
sûr.
C'est pas ça.
Ah oui, complètement, bien sûr, bien sûr.
Alors Amine au 01 53 48 3000. Amine, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Amine.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, et vous Amine ?
Bah, très bien, très bien. Comment ça va le matin ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Amine ?
En fait, je vous appelle parce que je viens d'allumer la radio, j'ai entendu qu'il y avait un avocat là, qui parlait au sujet des assurances. Et en fait, moi, ça fait un mois et demi que j'ai un sinistre trop tôt. Et j'ai toujours aucune nouvelle. En fait, je me suis fait rentrer dedans.
Ouais.
Et ça fait un mois qu'on attend le rapport de l'expert, mais on n'a aucune nouvelle. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un délai, il y a un temps limite pour avoir le rapport, et si au-delà j'ai pas le rapport, bah, je peux entamer une procédure.
Non, alors en règle générale, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous saisissez votre compagnie d'assurance et le moment où la compagnie d'assurance déjà revient vers vous, je parle même pas de l'expertise, mais le moment où on revient vers vous, il faut compter à peu près un mois. Bah, c'est-à-dire que c'est, on va dire, le délai normal et classique. Et puis c'est à ce moment-là qu'ils évoquent toutes les démarches. Donc on va vous indiquer qu'il y a un expert qui va venir vous voir. Mais si vous me dites que entre le sinistre et le moment où on se parle, ça fait quoi, un mois, c'est ça?
Un mois et demi.
Un mois et demi. Bon.
Mais est-ce que l'expert est déjà passé ou pas?
Il a vu le véhicule.
Il a vu, oui.
1er juin. Mais depuis, j'ai aucune nouvelle.
Le encore une fois. C'est vrai que les délais, on va dire, classiques, c'est 30 jours entre le moment où je viens, moi, expert, et je dois rendre mon expertise à la compagnie d'assurance, et c'est à la compagnie d'assurance de revenir vers vous. Mais lorsque vous contactez cette compagnie d'assurance, qu'est-ce qu'elle vous dit ?
Ben, elle me dit qu'on attend le rapport de l'expert, et quand j'appelle l'expert, ils me disent qu'ils attendent les informations de la partie adverse.
Alors, c'est une réalité, c'est-à-dire que quand les deux personnes sont assurées, l'expert doit contacter l'une ou l'autre partie. Pour autant, vous imaginez bien que si je suis la compagnie d'assurance de la partie adverse et j'apporte pas d'informations au bout d'un mois, deux mois, trois mois, dix mois, on pourra pas ensuite dire, mais attendez monsieur, moi j'y suis pour rien, je les ai contactés, ils sont pas revenus vers moi. Donc, j'allais dire, attendez autant que faire se peut, mais ça me semble un délai normal, peut-être encore une trentaine de jours. Ensuite, il faudra envoyer ce qu'on appelle une mise en demeure à votre compagnie d'assurance. Alors, c'est un courrier recommandé à R, parce qu'on ne peut pas vous faire subir à vous les conséquences du comportement de la compagnie d'assurance de la partie adverse. Ça ne peut pas être une excuse. Dans ce cas-là, ils font sans les informations de la partie adverse, et puis on vous indemnise, et ils se retournent ensuite, s'ils veulent, contre la compagnie d'assurance de la partie adverse. Parfois, ça traîne, parce qu'il arrive, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, il arrive que c'est la même compagnie d'assurance qui assure les deux véhicules. Alors je ne sais pas si c'est le cas, encore une fois.
Non, du coup, c'est pas
bon, alors c'est une bonne chose, mais en règle générale, les compagnies d'assurance jouent la montre quand les deux véhicules sont assurés par le même groupe. Bon, mais là, on est, on va dire, dans un délai normal.
D'accord. On peut contacter directement l'expert ?
Alors, on peut contacter l'expert, mais il faut savoir que l'interlocuteur privilégié, c'est la compagnie d'assurance. Ouais, c'est-à-dire que moi, normalement, je n'ai pas à contacter l'expert, je contacte la compagnie d'assurance. Maintenant, oui, vous pouvez prendre contact avec l'expert, bon, qui vous a répondu ce qui vous a répondu, mais si...
Est-ce qu'il est tenu de le faire ?
Ah non. Non, non, encore une fois, entre guillemets, mon donneur d'ordre, moi, c'est la compagnie d'assurance. Donc, je vous dis, ça doit être l'interlocuteur pour les uns et les autres. Et d'ailleurs, si vous étiez amené à envoyer un recommandé, entre guillemets, un peu plus musclé à votre compagnie d'assurance, c'est pas la peine de viser l'expert. C'est-à-dire, alors vous pouvez dire, écoutez, il y a un expert qui a été désigné, et puis, voilà, le temps s'écoule. Mais votre interlocuteur exclusif, c'est toujours votre compagnie d'assurance. Maintenant, compte tenu du timing que vous m'annoncez...
C'est pas hors délai.
Non, on n'est pas, pas dans l'excès.
Il n'y a pas un délai légal où ils sont obligés de répondre et trouver une solution ?
Non, il n'y a pas de, il y a pas un délai légal en la matière. C'est-à-dire que le délai, entre guillemets, qu'on rencontre dans les types de dossiers. C'est-à-dire que si dans les 4-5 mois, il y a rien, vous pouvez sortir vos muscles et puis éventuellement, vous savez, il y a toujours des phrases qui font réagir, c'est en disant, bah, écoutez, moi, si j'ai pas de retour de votre part, je saisirai, selon la formule consacrée, le tribunal compétent. En règle générale, vous recevez un coup de fil de votre compagnie d'assurance pour vous dire, bah, écoutez, voilà, on en est là. Donc, pour l'instant, selon moi, c'est peut-être pas la peine d'envenimer, entre guillemets, les choses. Mais, vous savez, les compagnies d'assurance finissent toujours par vous indemniser. Il n'y a pas de difficulté. Le truc, c'est qu'il faut, il faut savoir insister. Voilà. Et quand elles ont l'impression que vous les contactez pas, régulièrement ou suffisamment, elles se disent, il s'en fout peut-être un peu ou il est pas pressé. Donc oui, faut pas hésiter à les harceler et puis ah oui, mais bien sûr. Encore une fois, vous avez une assurance et ils sont tenus d'apporter des explications sérieuses. C'est-à-dire que si on vous dit, écoutez, on n'a pas eu de retour de la part de la compagnie d'assurance adverse. Alors je dis pas que c'est faux, mais il faut donner un timing. On peut dire, écoutez, on les met en demeure, on les relance, et puis à défaut de retour sous quinzaine, sous 30 jours, on vous contacte, monsieur, et pour chiffrer le préjudice. Mais on peut pas juste vous dire, j'ai pas de nouvelles de la partie adverse. Votre réponse, c'est dire ça, c'est pas mon problème. Bah, vous êtes assuré, ils doivent vous rembourser. Et après, s'ils n'ont pas de retour de la partie adverse, qu'ils se débrouillent.
Mais justement, je voulais savoir, s'ils me remboursent et qu'ils n'ont pas de retour de la partie adverse, est-ce que c'est moi qui vais être tenu comme responsable, alors que de base, je ne le suis pas?
Non. Non, bah heureusement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous établissez que vous n'êtes pas responsable, que, alors j'imagine que vous avez dû rédiger un constat, que vous envoyez tout ça, non, moi je vous indemnise dans ce cas-là sur les informations qui sont données. Et puis si demain, après-demain, il s'avère que renseignements pris à la suite d'une enquête, il s'avère que vous étiez en vérité responsable, la compagnie d'assurance peut légitimement d'ailleurs se retourner contre vous. Mais on peut pas spéculer là-dessus en se disant bah oui, mais moi je sais pas, peut-être que c'est lui, et tant que j'ai pas l'information, je ne paye pas. Non, le prof de cette compagnie, enfin de cette compagnie, d'une compagnie d'assurance, c'est ça. Ma mission, c'est d'indemniser, et puis que j'ai une information en face ou pas, et puis si j'ai une information qui est contradictoire et qui vous mettrait en cause, bah dans ce cas-là, oui, je pourrais vous dire, monsieur, vous êtes gentil, mais il faudrait me rembourser la somme de temps.
D'accord.
Est-ce qu'il y a une association des usagers des assurances pour se défendre?
Alors d'abord, il faut savoir que pour, on va dire, toutes les compagnies d'assurance,
il y a un médiateur.
Voilà, il y a un médiateur. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à contacter le médiateur. Alors, c'est pas un pote de la compagnie d'assurance. Hein, c'est une institution qui est totalement indépendante. Et dans tous les contrats d'assurance, donc il y a les coordonnées de ce médiateur. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à le contacter, et le médiateur, c'est-à-dire travaille sérieusement, c'est-à-dire qu'il va contacter la compagnie d'assurance et puis il se permettra de revenir vers vous pour vous dire, un, ce qu'il a fait, et deux, la réponse qui a été apportée. Donc ça, faut le faire, puisqu'une compagnie d'assurance, quand déjà elle est contactée par le médiateur, ça veut bien dire qu'elle n'a pas fait son boulot correctement et qu'elle n'est pas revenue vers vous spontanément. Donc n'hésitez pas à passer par le médiateur. Encore une fois, tous les contrats d'assurance comportent les coordonnées de ce fameux médiateur.
Il n'est pas proche de l'assurance quand même,
non,
a priori.
Non, ça c'est souvent c'est l'expert qui est proche de l'assurance. Vous savez, quand c'est pas une expertise judiciaire, c'est un expert qui est choisi par la compagnie d'assurance. Bon, si je suis l'expert de la compagnie d'assurance, je pars quand même du principe que je suis rémunéré par la compagnie d'assurance. Ouais. L'être humain étant ce qu'il est, on mord pas la main qui vous nourrit, donc l'expert de la compagnie d'assurance n'est pas forcément le type le plus indépendant du monde.
Voilà, Amine, d'accord. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose, Amine?
Ben, merci à vous.
Bien,
merci pour votre appel, Amine.
Merci, Amine.
Non, c'était pour moi, c'est tout ce que je voulais savoir.
Bon, ben voilà, revenez quand vous voulez, Amine.
Merci à vous, bonne journée, bon courage.
D'ailleurs, pour tous ceux qui n'arrivent pas à poser leurs questions à Maître Serran à l'antenne, vous pouvez l'appeler sur son téléphone portable, hein, Maître Serran.
Oui, au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Depuis le début des émeutes, Maître Serran, vous êtes sur le terrain, vous ?
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez voir ? Bah, écoutez, pourquoi être au plus près de l'action ?
Bah, je joue un peu le journaliste, parce que d'abord, j'ai un vrai regret. Je ne sais pas si c'est bien de le dire ou pas, mais si j'avais été plus jeune, j'aurais accompagné tous ces gamins. Vous voyez, c'est un vrai regret. Et j'aurais fait partie de ces gamins qui cavalent partout, qui éclatent les commissariats, les banques et autres, probablement. Donc, je suis moins jeune, donc un peu plus assagi. Donc oui, je sors et puis je regarde un peu ce qui se passe. D'ailleurs, lorsque les bus au dépôt du fort d'Aubervilliers ont commencé à prendre feu, j'étais, alors je suis pas l'auteur de tout ça, mais j'étais dans le secteur. Donc oui, ça fait deux jours où je me balade un peu partout en banlieue pour voir un peu ce qui se passe. Et c'est vrai que quand les journalistes vous disent, on voit des gamins, oui, ce sont vraiment des gamins, mais
ça veut rien dire, gamin.
Hein. Non, mais gamin dans
ça fait quel âge?
Alors évidemment, je leur demande pas de montrer leurs papiers, mais
de ce que vous voyez.
Voilà, de ce que je vois, des petits jeunes de 13, 14 ans, enfin voilà, on n'en voit pas qu'un seul. Ouais, le truc, c'est ça, c'est que la notion et tous les politiques jouaient là-dessus en disant mais il y a les grands frères qui peuvent éventuellement canaliser les petits, leur faire comprendre que cette notion de grand frère a disparu, c'est-à-dire que il n'y a plus cette autorité, ce grand frère qui viendrait dire attendez.
Alors, il y en a quand même encore un peu, mais ouais, beaucoup, ouais, parce vraiment, que c'est vrai les budgets se sont taris pour le tissu associatif.
Mais indépendamment des budgets, je crois que cette jeune génération n'y croit plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on nous a baladé depuis Mitterrand sur les histoires de grands frères, sur SES racisme et tout ça. Enfin, c'était la banane du siècle. On voit bien que ça n'a rien changé. Alors si, ça a changé que certains des SES racisme ont fait une carrière politique grâce à nous, mais ça s'arrête là. Donc au bout d'un moment, le discours est inaudible.
Maître Serran sur Beurre FM, on vous retrouvera la semaine prochaine. Maître Serran, dans un instant, c'est l'islam au présent. Et c'est le remplaçant officiel de l'imam Abdelali Mamoun qui sera avec nous, hein, puisque Youssef Hachmaoui sera dans 4-5 minutes sur le plateau. A tout de suite.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.